Très bien. La semaine dernière, Adrien nous a partagé sur la bataille qui peut avoir lieu dans notre tête, et dans notre âme, dans notre esprit. Et selon ce qui se dit dans ce dialogue, on peut être enfermé intérieurement dans une espèce de prison. C'est ce qu'il a partagé avec des images la semaine dernière. Et c'est intéressant qu'il y ait un chant très connu dans l'Armée du Salut qui représente bien cela. On n'entend pas ? La lumière. Ça va ?
Non,
tu veux que je prenne l'autre ? Et c'est intéressant qu'il y ait un chant très connu de l'Armée du Salut qui représente bien cela. C'était en 1894, à l'âge de 64 ans. William Booth, il allait commencer une nouvelle campagne d'évangélisation en Angleterre et il a écrit les paroles de ce chant qui seront affichées là. Il a écrit le celui d'avant. Voilà. Mon cœur est instable et vers le péché m'entraîne. Le mal est mon maître, il me domine et m'enchaîne. Mais toi, tu sais vaincre et tout soumettre à ta loi. Oh, viens, onde puissante, viens et coule sur moi. Puis le quatrième couplet dit « Depuis des années, c'est le prochain, la paix m'est inconnue, mon âme tremblante de force est dépourvue. Mais toi, mon Seigneur, tu peux sauver à l'instant. Viens affranchir mon âme, lave-la dans ton sang. » Le titre de ce chant est « Salut infini » et j'ai pris la traduction du recueil précédent à l'unisson. Les paroles ont été écrites pour que, après ces cultes d'évangélisation, les personnes qui se sentent prisonnières à l'intérieur puissent trouver des mots pour prier. Parce que des fois, on ne sait pas comment prier quand on se sent dans une certaine prison intérieure. Et puis, il l'a écrit pour que les gens puissent prier en chantant après le culte pendant l'appel. Et les chrétiens de tous les temps savent qu'il y a une bataille qui se joue pour nos pensées et pour nos cœurs. Et dans cette bataille, pour être libre à l'intérieur, il ne faut pas sous-estimer la force que l'ennemi a. La Bible considère qu'un monde spirituel invisible, c'est une réalité, aussi réelle que les virus, les bactéries et les microplastiques qui sont tout partout. Et tout comme Dieu est pleinement en action dans ce monde, parce qu'il l'est, l'ennemi aussi est en action dans ce monde. Et on l'appelle Satan ou diable. Et il a une influence dans la lutte interne qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Pierre nous dit comme ça dans la Bible, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » Donc l'ennemi est en action dans ce monde. Clarissa m'a partagé récemment un crime odieux qui a circulé dans les nouvelles il y a peu de temps. Et en entendant ça, je lui ai répondu que ça ne pouvait que être des démons dans la vie de cette personne. Il y a des trucs, c'est même pas humain, c'est tellement atroce que ça ne peut être que l'influence de Satan dans la vie de quelqu'un. Pour des choses très graves comme des meurtres, ça peut sembler évident, l'action du diable. Mais selon Pierre, dans ce verset, le diable essaie aussi d'avoir une influence dans la vie de tous les jours des chrétiens. Ça sera dans un degré beaucoup plus petit, mais il nous dit que nous, on doit être vigilants, ne pas se laisser distraire, parce que Satan est prêt à attaquer comme un lion qui rôde. Et une bonne tactique pour bien se défendre, c'est de savoir comment l'adversaire il va attaquer. C'est pour ça que dans les grands tournois de foot, les gardiens ont ces aides-mémoires quand il y a des tirs au but. Des fois sur la bouteille ou un petit papier dans la chaussette, ils ont le nom ou le numéro de chaque joueur. Et puis c'est marqué s'ils ont la prédilection pour tirer à gauche ou à droite, ou s'ils préfèrent tirer fort ou en finesse, ou ras de terre, en hauteur. Ils notent un peu les statistiques et puis ils se disent, bah, la plus grande probabilité pour ce joueur, c'est qu'il va tirer là. Du coup, je pourrais mieux me préparer pour défendre et sauter du bon côté. Du coup, ça, c'est une bonne tactique pour se défendre, savoir comment l'ennemi va attaquer. Et l'arme préférée de l'ennemi de notre arbre, c'est le mensonge. Voilà. En parlant de la réalité du diable, Jésus a dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Le mensonge a une force très grande. À Berne, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait une rumeur qui circulait qu'à l'époque de Pâques, les Juifs tuaient un enfant chrétien et utilisaient son sang pour préparer le pain azim. C'est la prochaine image. Et à Berne, ça s'est passé qu'en 1294, un enfant appelé Rudolf a été retrouvé mort. Et du coup, les Juifs ont été accusés. Ils ont été persécutés et les autorités ont décidé de les expulser de la ville de Berne. Et il y a encore les vestiges de ce mensonge dans la fontaine appelée la fontaine la plus terrifiante de Suisse, qui est toujours à Berne. Il y a ce chapeau en forme de cône, c'est ce que les Juifs devaient utiliser pour démarquer qu'ils étaient Juifs. Et puis, il y a là, comme si c'était un Juif dévorant des enfants. Du coup, le mensonge a de la force. Imagine que je puisse te convaincre, une dame ici, que tu es en surpoids, alors que tu as le poids idéal pour ton sexe, ton âge, ta taille. Imaginez que je répète souvent, t'es en surpoids, je te compare avec d'autres, et tu finis par y croire. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que tu vas commencer à te sentir moche, à penser que les autres filles sont plus jolies, que personne ne te remarque, que tu n'es pas assez attirante pour trouver un mari. Et donc, tu vas te lancer dans un régime strict, peut-être même mauvais pour la santé, pour essayer de maigrir à tout prix. Tout ça à cause d'un mensonge semé ici, dans la tête. Oui, si je disais à un homme ici que ta femme est la cause de tes problèmes, que tu as fait le mauvais choix en l'épousant, que ce n'était pas la bonne personne, que tu seras malheureux à ses côtés pour le restant de tes jours. Si tu crois à ces mensonges, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez clair, insatisfaction, conflit, trahison, divorce. C'est qu'un mensonge, mais il a un pouvoir immense pour détruire la vie de quelqu'un. Et c'est ça le grand pouvoir de Satan dans ce monde. Le même verset qu'on a lu dans la version Parole de vie dit « Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. » En effet, il est menteur et c'est le père du mensonge. Et si le diable ment ouvertement et ça ne marche pas, il va essayer une autre arme. C'est de suggérer dans nos pensées quelque chose de bon ou d'agréable qui va nous détourner de la volonté de Dieu. Et cette technique du diable s'appelle la tentation. C'est ce qu'il a essayé avec Jésus. Mentir ouvertement à Jésus ne marcherait pas. Mais suggérer quelque chose d'agréable qui nous détourne du plan de Dieu est beaucoup plus rusé. Regarde la tactique de l'ennemi avec Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Donc s'il ne peut pas mentir clairement, il va devenir un peu plus sournois. Le diable prend un besoin légitime et il nous offre une manière en dehors des plans de Dieu pour satisfaire à ce besoin. Jésus a faim, c'est vrai. Il est aussi le Fils de Dieu, c'est aussi vrai. Du coup, pourquoi pas utiliser son pouvoir et transformer ses pierres en pain? Le message était ça, utilise ton pouvoir pour ta propre satisfaction, Jésus. Mais Jésus savait, s'il commençait son ministère en utilisant son pouvoir pour lui-même, ça serait une pente glissante. Probablement tous les autres choix par la suite seraient en pensant « Comment je peux me satisfaire dans cette situation ?» Et puis il n'allait jamais accomplir le but de sa vie. Avec nous, le diable va faire de même. Il va prendre un besoin légitime d'être aimé, d'oublier un problème, de se sentir proche de quelqu'un et va suggérer Juste un peu plus loin, c'est pas si grave. Juste une fois, juste un verre, juste un clic, juste cette lecture. J'ai quand même le droit, je suis majeur. Et comme une tentation est destinée à tromper, il ne va pas dire que si tu dis oui, quelque chose sera planté dans ton âme et tu seras enclin à recommencer. Ou alors à devenir une personne que tu ne veux pas devenir. Et l'arme de la tentation est aussi forte parce qu'elle utilise nos sentiments, nos envies, nos besoins. C'est un peu plus intime. Et l'ennemi, il sait être persévérant. Il ne va pas s'arrêter du premier coup. Après ce temps de tentation dans le désert que Jésus a vécu, le texte dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire, j'ai pas fini encore. Il a continué à rôder comme un lion jusqu'à ce qu'il trouve un autre moment favorable pour attaquer. Et dans la vie de Jésus, cela s'est présenté plus tard. Dans cette première tentation, le diable essaie de convaincre Jésus à utiliser son propre pouvoir pour éviter la souffrance de la faim. Et plus tard, il attaque de nouveau dans ce même point sensible. Jésus était convaincu qu'il allait devoir souffrir, être mis à mort, et il le partage avec ses disciples. Et voilà ce qui se passe en Matthieu 16. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Pierre essaie de le convaincre à ne pas suivre le chemin que Dieu avait mis dans son cœur. Pierre veut mettre dans sa tête qu'il peut se sauver de cette souffrance. Et c'est le diable qui a essayé de faire ça déjà au premier lieu quand il avait faim. Et maintenant, le diable utilise quelqu'un proche pour suggérer la même chose. Et Jésus répond, « Arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Satan voulait contaminer la manière de penser de Jésus. Bien sûr que Jésus avait le besoin tout à fait humain de se sentir en sécurité. On a tous ce besoin. Mais Dieu avait un plan encore plus grand au travers de cette souffrance. Et Satan, en utilisant un ami, voulait le dévier de ce plan. Il voulait dévier Jésus de ce plan. Et toutes les années avant Pâques, on fait cette campagne partage et prière. On invite tous les salutistes à prendre un temps pour jeûner quelque chose, une boisson, une nourriture, un temps d'écran, de chauffage, de prier et de faire une offrande pour l'œuvre pastorale de l'Armée du Salut autour du monde. Et je dis que le but du jeûne est plus que juste de nous connecter à Dieu, c'est déjà super, mais je trouve aussi que le jeûne, c'est une préparation à endurer la souffrance. Parce que la souffrance va venir dans des périodes de notre vie. On va manquer de quelque chose, on va perdre des choses dans la vie. Que ça soit dans la jeunesse, que ça soit dans la vie adulte, que ça soit dans la vieillesse. Et on peut se préparer à cela par le jeûne. Parce que s'abstenir volontairement de quelque chose d'important pendant un temps nous forme notre caractère. Et puis on se prépare à un jour, je vais souffrir, mais je vais tenir bon parce que je me suis entraîné aussi par le jeûne. Donc quels sont tes besoins ? Tu as besoin de te sentir important, valorisé. Tu as besoin de te sentir aimé. Tu as besoin de stabilité ou de sécurité. L'invitation du Seigneur est celle-là dans sa parole. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que tu lui demandes. Le Seigneur veut combler ce besoin. Il peut le faire, il veut le faire. Donc trouve ton plaisir en lui et laisse-le agir. Et une troisième arme très efficace de l'ennemi pour nous enchaîner dans notre tête, dans notre âme, est l'accusation. Un autre surnom du diable est l'accusateur. La Bible dit en effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Ah, Satan est maître dans cette attaque à notre âme. Et il prend un plaisir fou parce qu'il sait la force qu'il y a. Et la différence avec le mensonge simple, c'est que dans l'accusation, il y a souvent une partie de vérité parce qu'on a tous commis des erreurs ici. Personne n'est à la hauteur de ce que Dieu demande. Donc il prend une erreur qu'on a commise, il le mélange avec du mensonge Et voilà, ça devient un poison, une dague. Donc c'est une forme de mensonge, mais plus agressive, parce qu'il y a une part de vérité, et on sait qu'il y a une part de vérité là-dedans. En voici quelques exemples. Il peut prendre des choses qu'on a fait au passé, et puis il peut dire, t'as trop fait de fautes, Dieu ne peut plus te pardonner. Ou tu referas toujours les mêmes erreurs, de toute façon. Ou ce que tu as fait est impardonnable. Ou si les autres savaient la vérité sur toi, ils te rejetteraient. Ou t'es hypocrite, t'es pas un vrai chrétien vu que ce que tu as fait. Tu changeras jamais. Ou t'as fait ça, donc tu vaux rien. Dieu est dessus de toi. Tu ne peux plus être aimé par Dieu. Les autres sont meilleurs que toi, t'es un échec. À quoi bon prier maintenant? C'est trop tard pour toi. Tu es seul, Dieu t'a abandonné. C'est super lourd en fait de porter ça, si on le porte longtemps. Et la seule chose qui peut nous aider dans notre dialogue interne, c'est la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit réellement? Quelles sont ses promesses? Qu'est-ce que Jésus a montré quand il a marché sur terre? Comment Jésus a montré que Dieu est en réalité? Parce que ça ne correspond pas avec les accusations qu'on reçoit dans la tête. Par exemple, pour l'accusation, tu ne vaux rien ou Dieu t'a abandonné, c'est de se dire et dire à l'ennemi d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. C'est ce que Dieu dit. Ou pour l'accusation, tu ne changeras jamais. C'est se dire et dire à l'ennemi, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je n'ai pas changé encore, mais je continue en chemin, je vais changer. Dieu va m'aider à changer, c'est son œuvre en moi, il va le terminer. Ce n'est pas par ma force que je suis capable, c'est par sa force en moi. Ou pour le mensonge, t'es moche. On peut se dire et dire à l'ennemi, le verset qu'Adriane a cité dimanche dernier, « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci de m'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Ou pour la tentation, « J'ai besoin d'être accepté par le groupe, donc je vais faire ce qu'ils font pour être accepté. » On peut se dire et dire à l'ennemi, « Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. » Ou pour la tentation, mon bien-être doit passer avant tout. Je peux me dire et dire à Satan, je suis appelé à suivre l'exemple de Jésus dans cette situation. Je suis appelé à endurer l'épreuve avec la force que lui, il va me donner parce qu'il m'a fait cette promesse. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre des accusations, des mensonges, des tentations. Et c'est là de l'importance de lire les textes sur Jésus, de comprendre qui il est vraiment, ce qu'il a dit vraiment, pour pouvoir combattre, sinon on n'a pas d'armes pour se défendre. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de semer dans ta tête dernièrement? Il est en œuvre aussi dans cette terre, tout comme Dieu l'est en œuvre. Je vous invite à prendre le temps de ce prochain chant pour remettre ces mensonges que peut-être vous avez reçus, les remettre à Jésus. Les chansons sont aussi un bon moyen de proclamer la vérité. De dire, non, la Bible dit cela, et je chante ces chants pour dire la vérité sur Jésus et sur moi-même. Les chants qu'on essaie de choisir pour les cultes sont basés sur la Bible, et on peut les proclamer avec force. Et peut-être que pendant que vous vous chantez, vous sentez aussi que Dieu vous appelle à partager certains de ces mensonges avec quelqu'un pour que cette personne puisse vous aider à discerner la vérité. Attends, c'est pas vrai ce que tu es en train de penser. La vérité, c'est ça sur toi. Et quelqu'un peut te dire la vérité. Et c'est plus facile à assimiler quand quelqu'un d'autre nous l'a dit. Et si c'est le cas, recherchez quelqu'un. Et faites-le. Exposez ça à la lumière. Et puis ça apporte la vérité. On va chanter ce chant de William Bosman. On va sauter le deuxième couplet, sinon si, c'est beaucoup. Hein. Si.